Alors on va essayer d'aller chercher des arguments moins officiels pour décrire cette histoire d'un désastre Irak. Donc c'est le titre Irak de Ignacio Ramonet. Peut-être du côté des bonnes affaires. Hein, il y a des bonnes affaires qui se sont faites sur cette guerre, autour de cette guerre, et qui sont en train de se faire et qui vont se faire parce que il y a la reconstruction. Ce qui est un énorme gâteau, la reconstruction. Alors, vous avancez quand même des chiffres concernant, par exemple, 2002, les achats en matière d'armement s'élèvent à la somme coquette de 80 milliards de dollars. Et ces 80 milliards de dollars sont partagés entre 6 sociétés. Voilà, il n'y a pas tellement de monde qui ça s'éparpille pas trop. C'est 6 sociétés qui se partagent ces 80 milliards de dollars, c'est-à-dire le produit national brut de la Colombie, pour prendre un pays que vous connaissez. Voilà, c'est quand même pas mal, 80 milliards d'armements. Alors ça c'est un aspect des choses. Et puis il y a effectivement la reconstruction, qui est un marché évalué à quelques dizaines de milliards près, à 100 milliards de dollars, et qui donne lieu à une guerre dans la guerre, et là on rejoint un vieux thème qui n'est pas exclusif aux États-Unis, c'est-à-dire la connivence, la connexion entre le politique et le militaro-industriel.
Voilà, c'est ça. Et dans une certaine mesure, j'ai rappelé la célèbre phrase de Eisenhower, qui disait lui-même à la fin de son mandat, il faudra qu'aux États-Unis, alors qu'il était lui-même républicain, hein, le général Eisenhower, président des États-Unis au début des années 50, et qui disait lui-même, il faudra qu'à l'avenir, les citoyens américains se méfient de l'alliance entre justement les industriels de l'armement et les politiciens qui risquent de déclencher des guerres uniquement pour répondre aux intérêts de ces industriels. Et c'est lui qui avait créé cette expression, le complexe militaro-industriel. C'est pas une expression, disons, des opposants ou des critiques des États-Unis, c'est une expression du président Eisenhower. J'ai rappelé cette phrase. Pourquoi ? Parce que ce qui saute aux yeux, quand on analyse et qu'on cherche un petit peu les données, des données qu'on n'a pas vues tellement dans les médias, c'est que effectivement, comme vous dites, même avant la guerre, juste avant la guerre, eh bien, ces budgets colossaux, 90 milliards de dollars, consacrés à préparer la guerre, et qui ne vont qu'à quelques entreprises, des entreprises dont je donne également par ailleurs l'évolution du cours de la bourse. Avant 2002, avant 2002, bien sûr, comme on était, ou avant 2001, comme on était dans les dividendes de la paix, et que les États-Unis, le père de l'actuel président, le père Bush, avait dit qu'il fallait désarmer, il fallait maintenant faire profiter à la société de ce qu'on n'allait pas dépenser en armement. Eh bien, toutes ces entreprises voyaient la valeur de leur action baisser. Dès qu'il y a eu le 11 septembre et que le pays s'est préparé à faire la première guerre, d'abord la guerre d'Afghanistan, et puis ensuite la guerre d'Irak, bien les actions ont monté, mais en flèche. Et on voit que c'est un petit groupe d'entreprises. Et pour la reconstruction, effectivement, dont les sommes sont astronomiques, on voit également que c'est un petit nombre d'entreprises. Mais curieusement, ces entreprises sont les entreprises qui cotisent le plus pour aider à l'élection du président Bush. Mais je rappelle aussi que l'entreprise Halliburton, c'est tout à fait intéressant, ça. On n'a pas beaucoup lu dans la presse. Par exemple, l'un des hommes les plus acharnés contre l'Irak, au point qu'on peut se demander si ça relève pas de la psychanalyse, c'est le vice-président Cheney, qui, depuis le début, je le raconte dans le livre, dès le début, avant même le 11 septembre, et là, à côté du président, monsieur le président, c'est l'Irak qu'il faut abattre. Le général Wesley Clark a raconté, c'est une anecdote que je raconte dans le livre, Wesley Clark, c'était le chef de l'OTAN qui a dirigé la guerre du Kosovo. Hein, donc, bon, c'est un militaire. Il est démocrate, il n'est pas républicain. Mais bon, Wesley Clark a raconté que le matin du 11 septembre, il reçoit un coup de fil de l'entourage de Dick Cheney, qui lui dit, monsieur le général, mettez ça sur le compte de l'Irak. C'est lui qui raconte. On ne sait même pas qui a fait le coup. Mais déjà, on veut que ce soit l'Irak. Alors Dick Cheney, que faisait-il quand il n'était pas vice-président des États-Unis? Pendant la décennie 80, pendant que Clinton était président des États-Unis, que faisait-il? Où était-il? Curieusement, il était président de l'entreprise Halliburton.
Eh oui.
Et Halliburton, c'est quoi comme entreprise? C'est une entreprise qui fabrique du matériel de forage. Équipement pétrolier, des tuyaux pour gazoduc, pour oléoduc, etc. Et on découvre, je donne tous les éléments dans le livre, que lorsqu'il était président, vous savez qu'il y avait un embargo américain sur les affaires avec l'Irak. Quelle est l'entreprise qui, sous l'embargo américain contre l'Irak, pendant les années 90, a fait le plus d'affaires avec l'Irak? Curieusement, c'est Halliburton. Voilà que le vice-président Cheney, eh bien, comme d'autres, a tiré un profit formidable de, à la fois la guerre et l'embargo contre l'Irak. La guerre contre l'Irak et maintenant la reconstruction contre l'Irak, de l'Irak.